Are you the one who's on the radio station?
Quartier des Ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Quartier des Ondes, la radio associative du Blône. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le second numéro de l'émission Chantier Social. Ici, on construit et déconstruit des enjeux de société. On façonne de nouvelles idées et des lignes directrices vers un monde plus juste. Comme chaque mardi et pendant un mois, nous abordons une thématique de société que nous venons interroger en rencontrant des actrices et acteurs engagés sur le territoire rennais. Alors ce mois-ci, nous explorons une thématique essentielle, à mon sens trop souvent laissée en marge des débats publics. Il s'agit de l'écologie, vue depuis les quartiers, pensée à partir de celles et ceux qui y vivent, y respirent ou y travaillent.
Are you the one who's on the radio station?
Quartier des Ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro?
Pour le troisième épisode de la thématique sur l'écologie populaire dans le cadre de l'émission Chantier Social, je me suis rendue à Meulles. C'est sur une parcelle de maraîchage que j'ai rencontré Etty Valère, originaire du Cameroun et demandeur d'asile en France. Sa situation administrative ne lui permettant pas de travailler, il a lancé un projet pour cultiver la terre. Il a motivé ses camarades qui dormaient avec lui au parc de Morpa afin de récolter des légumes en partie donnés au Resto du Cœur. En France, les demandeurs d'asile ne sont pas autorisés à travailler avant un délai de 6 mois. Pour les personnes majeures et sous certaines conditions, une aide économique, l'allocation pour demandeurs d'asile, peut être versée. Etty Valère a mobilisé cette ressource économique pour monter son projet d'exploitation maraîchère. Sur la parcelle, ils sont une quinzaine à travailler bénévolement pour prodiguer des aliments bio aux personnes dans le besoin.
Tu vois, j'avais trié juste pour... On avait seulement trié parce que ça va encore grandir, quoi.
Oui, on ne devait pas faire ça, on devait laisser les petits là.
Ah, ça, c'est les conséquences d'une équipe. Si dans une équipe, il y a ce problème, bon, vous voyez, rien ne doit marcher. Tu vois, ils sont venus le matin, ils ont enlevé juste ça, ils se sont tournés, ils sont partis.
Je m'appelle Njonan Gandjedi Valère. Je suis Camerounais, je suis arrivé en France le 26 juin 2023. Ouais, tout en parcourant plusieurs pays afin d'arriver ici, sous thème de migration, et que le parcours n'a pas été très facile aussi, puisque quand je quitte mon pays le 10 novembre 2022, j'arrive au Nigeria. Après le Nigeria, j'ai fait 2 nuits au Nigeria. Bon, toujours sur la route, en train de voyager, je suis arrivé au Niger. Arrivé au Niger, j'ai fait 2 semaines. Niger, et du coup du Niger je suis monté pour l'Algérie. Ouais, de l'Algérie j'ai fait quelques semaines aussi, et de l'Algérie je suis arrivé en Tunisie, et de la Tunisie, bon, je suis quitté en Tunisie le 9 mars 2023, et on nous a lancé à 4h, et du coup, ça n'a pas été facile, les conditions sur l'eau, puisque à 17h, on a fait un naufrage devant les bateaux de sauvetage italiens. On était 5 en 8, et on était 78, on a perdu 5 en 8. Nous sommes sortis au nombre de 20. Ouais, c'est un voyage un peu très marquant, quoi. Au Cameroun, j'étais agriculteur à mon propre compte, agriculteur formé.
Et tu cultivais quoi comme légumes?
Comme légumes, il y avait des carottes, des poireaux et tout, mais quand même des grandes cultures comme le riz, la culture du riz, arachide. Voilà, j'ai même apporté la semence du riz ici. On a vendredi.
Oui.
Vendredi, on a mis, oui, ça, on a un petit espace là, au jardin de Prévalet là, oui, à Rennes là. Oui. On a expérimenté le riz là-bas et les arachides. Oui, je faisais dans ça. Et le cacao, le palmier à huile aussi. Oui.
T'as mis combien d'hectares?
Moi là-bas au Cameroun, en cacao, j'avais 4 hectares. En palmier à huile, j'avais 1 hectare.
Tu travaillais tout seul?
Non, au Cameroun, j'étais quand même patron. J'étais propriétaire, j'étais quand même patron, j'avais mes ouvriers.
Ouais. T'as une âme de personne qui crée des choses, ou en tout cas qui se détermine.
Ah oui, vous savez, dans la vie, on doit se rendre utile dans la société. Même ici, là, c'est quand j'ai vu, je suis allé dans des banques alimentaires, dans des restos de cœur, secours populaires. Je viens, on me donne gratuit. Je ne veux pas manger gratuit. On me soigne gratuit. Mais ça me gênait beaucoup. C'est comme si j'étais redevable à la société. Donc là, maintenant, il me fallait me mettre au boulot. Et pour lancer ce projet-ci, l'OFI nous donne, quand tu demandes d'asile ici, l'OFI te verse un peu de sous pour ton entretien, quoi. C'est avec cet argent que l'OFI m'a versé que j'ai lancé ce projet. Ouais. Parce que déjà, on me soigne gratuit, je mange gratuit. Bon, le seul problème, c'est que je dors dehors. Je dors dans une tente. C'est la seule difficulté, que j'ai ici. Bon, pourquoi ne pas aussi travailler et aider les autres? Parce qu'il y en a certains qui sont aussi dans des situations encore plus précaires que la mienne. Hein? Oui. Il y a des gens qui sont encore... Il y a des gens qui ont même de la dépression parce que ils ne parviennent pas à se nourrir. Ils n'ont pas le courage. Ils sont couverts de la honte puisque les gens n'ont pas de même mentalité. Oui. Il y en a qui arrivent ici, là. Ils se disent que, mais est-ce que c'est moi qui dois aller m'aligner pour prendre la nourriture? Oh, dans mon pays, j'étais... Non. Là, on essaie un peu d'encourager ce genre de personnes.
Est-ce que c'est un peu aussi thérapeutique de venir ici travailler ici?
Pardon?
Est-ce que c'est un peu thérapeutique aussi? Dans le sens où cultiver la terre, ben, finalement, ben, ça fait aussi du bien quoi, de venir ici travailler.
Oui, ça fait du bien pour certains.
Ouais.
Mais pour d'autres, c'est un peu... c'est comme si c'est un fardeau pour eux, puisque bon, ils ne sont pas habitués. Et tu sais, si tu me dis le contraire, ça doit m'étonner parce que dans la tête de tout le monde, l'agriculture, c'est le travail le plus difficile sur la terre.
C'est vrai, bien sûr.
Tu sais, j'ai toujours dit aux gens de prendre l'agriculture aussi comme tout autre métier, parce que l'électricien, si peut-être l'ampoule est grillée là, tu dis, allez, si tu ne connais pas démonter l'ampoule, tu ne peux pas. Oh, quand l'électricien vient, il prend, il met, tu vois ça comme du miracle. Oh, en agriculture, si toi-même tu te formes, ça sera la même chose. Il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que des sauts genre. Tu vois ici, là-bas en bas, c'est là-bas où on a déterré les pommes de terre. Tout le bas là, on a déterré les pommes de terre là-bas. Et ici, c'était les pommes de terre ici. Et afin qu'on puisse mettre les salades là. Nous sommes à Mélès, précisément à la Béfrière, oui, à la ferme de Yuan et ses parents. Oui, ce sont des parents un peu très philanthropes, je peux le dire, excuse-moi du terme.
Tu veux dire quoi?
Philanthropes, ils sont très humains. Oui, ils sont très humains. Ouais. Ils ont de l'amour pour leur prochain, vraiment. Puisqu'ils nous ont accueillis dans de très bonnes conditions, avec des larmes aux yeux, vu nos conditions de vie. Nous ne sommes pas tombés ici là comme une pierre. Ce projet n'a pas commencé sur la base des agriculteurs migrants. Ce projet, j'avais d'abord fait le premier projet qui était les migrants volontaires de Rennes. Puisque je n'aime jamais rester sans rien faire, j'ai monté ce projet. Le but était d'accompagner la mairie de Rennes dans l'opération Ville Propre. Certes, la ville de Rennes a déjà une équipe de techniciens d'entretien, mais on voulait aussi les accompagner bénévolement, quoi. Bon, et tu sais, dans un centre-ville, tu ne peux pas faire comme si tout est permis. Bon, j'ai adressé un courrier à la mairie de Rennes qui est restée lettre morte 3 mois après, et du coup, j'ai monté ce projet des agriculteurs migrants et du coup, heureusement, j'avais des Justine, des Bénin, un peu qu'on dormait ensemble au parc. Oui, j'ai monté ça. Je les ai dit, voici un truc que j'ai monté. Autrefois, j'ai monté tel projet. La mairie n'a pas répondu, voici un truc que j'ai monté. Est-ce que ça peut vous intéresser? Voilà, parce que quand nous restons ici, je vois vous ennuyer et tout. Elles ont dit qu'ils peuvent. Au départ, il y avait un peu un découragement. J'ai toujours dit non, c'est à base de forcer qu'on forger qu'on devient forgeron. Voilà. Puisqu'il y avait beaucoup qui ne connaissaient pas ce problème d'agriculture. Heureusement, comme Dieu fait toujours ces choses, j'avais un copain, Maxime. Il faisait partie des associations de campagne, là, campagne ouverte et solidaire. Quand j'ai expliqué cela à Maxime dit « Ah, waouh, c'est très bien parce que nous avons aussi une association. Est-ce qu'on peut vous aider à chercher, à trouver la terre ?» J'ai dit « Ah ouais, c'est ça notre besoin. » Voilà comment ils ont lancé sur les réseaux sociaux la demande de terre. Voilà, Sylvie a répondu à la demande. Cette association nous a mis en contact avec Sylvie, qui est la maman de Yuan. Voilà comment les choses sont parties.
C'était en quelle année ça ?
C'était en février 2025.
Lors de ma venue sur la parcelle, Eddy n'est pas seul. Il est accompagné de Bena qui nettoie la parcelle de carottes lors de notre échange. Elle raconte comment elle a intégré le collectif et le sens qu'elle y met. Infirmière de profession, elle prend soin de la terre comme elle a pris soin des humaines et des humains autrefois.
Oui, moi je m'appelle Mpemba Kisanti Bena. Je suis de la RDC, la République démocratique du Congo. Et je suis intégrée dans les groupes, dans les collectifs. Je viens ici pour faire le champ parce que je voyais que de rester, parce qu'on était au parc, là au parc de Morepa, de rester comme ça seulement au parc, en tout cas ça me gênait, ça me faisait du mal. C'est pourquoi quand j'ai vu les groupes, notre fondateur des groupes, c'est M. Eddy. Et quand j'ai vu les collectifs, en tout cas j'étais intéressée, c'est pourquoi je me suis intégrée. Je me suis intégrée dans les groupes parce que moi aussi, dans mon pays, je faisais le champ. Quand j'ai vu les agriculteurs, mes gars derrière, moi aussi, j'avais même l'envie aussi de faire le champ ensemble avec eux.
Vous savez, ici, là, c'est comme une ferme école. C'est comme une ferme école parce que là, il y a ceux qui connaissent, comme moi, je suis technicien en agriculture et élevage. Bon, d'autres ne connaissent pas. Au fur et à mesure, moi, je ne peux pas travailler seul. Je n'ai pas 1000 mains. Bon, leur apport maintenant, c'est leur main d'œuvre. Ils travaillent maintenant en se formant.
Quand on a commencé le projet, je n'étais pas là. Mais quand on a commencé à planter, j'étais là. J'étais la première pour planter ensemble avec M. Eddy et tous les collectifs. Donc, depuis mois d'avril. Ouais. Oui. Depuis le mois d'avril, oui, depuis le 18 avril, je suis là. Dans mon pays, j'étais infirmière parce que j'ai fait les cours de sciences infirmières. Mais ici, je n'ai pas de travail parce que je n'ai pas le titre de séjour. Et comme j'avais fait une formation de l'agriculteur, c'est pourquoi je me sens bien. Si je travaille comme ça, je me sens très à l'aise. Nous sommes des bénévolants ici, mais des migrants. Nous n'avons pas le droit de vendre quelque chose, mais nos récoltes, si nous faisons notre récolte, on donne dans des associations comme les Restos du Cœur, Secours Populaire, Parc de Morepa, Parc de Brikine, il y a aussi Mélès aussi, Secours Populaire de Mélès, Restos du Cœur de Mélès. Si on fait les récoltes, on donne dans des associations.
Et vous avez planté quoi au mois d'avril?
En tout cas, on a planté beaucoup de choses. Il y avait des tomates, des poireaux, des piments, poivres, courgettes, céleri, des choux. Il y avait beaucoup de choses. Des carottes, comme tu vois là.
Ouais.
Et comment ça s'organise une parcelle comme ça? Où est-ce qu'on décide de placer les légumes?
D'abord, cette fois-ci, j'ai essayé un peu de mélanger un peu tout. Si tu regardes, c'est du bazar. J'ai un peu voulu faire du bazar, voir quelle plante va adhérer avec l'autre. Tu vois, quelle plante peut adhérer avec l'autre. Et du coup, normalement, sur des parcelles, on doit spécifier chaque parcelle par rapport à sa plante. Et savoir que tu ne peux plus enlever les tomates et remettre toujours les tomates au même endroit parce que la terre sera, cet endroit-là sera habitué, s'il développe les microbes, les germes au sol, ces germes-là seront très résistants. Tu vois, donc on ne doit pas habituer une culture à la même place. On bâche comme ça là pour tuer les herbes, tu vois.
Pour que ça ne nous donne pas du boulot à la saison prochaine. Tu vois, Et ces herbes maintenant seront maintenant l'engrais organique. Oui, c'est ça qui fera l'engrais maintenant dans notre terre. Ça va amender la terre.
Et le fait de recouvrir la terre, ça permet quoi?
Ça permet de neutraliser les mauvaises herbes jusqu'à la racine.
Ah.
Oui, parce qu'en fait, dans le bio, on ne veut pas utiliser d'herbicides, on ne veut utiliser aucun intrant chimique. Quand tu regardes, la moyenne d'âge en Afrique aujourd'hui est de 40 ans, tu vois. Même à 35 ans, tu vois déjà des jeunes qui sont atteints de l'AVC. Qu'est-ce qui est à l'origine de l'AVC? C'est ces aliments toxiques que nous consommons. Il n'y a rien qui est à l'origine de l'AVC que ces aliments toxiques. Quand tu regardes, ces maladies sont issues des produits chimiques qu'on utilise dans des plantations, dans des maraîchers et tout, et tout. Puisque quand tu regardes une personne qui mange bio et plus sain, tombe moins malade que celui qui mange trop des trucs manufacturés. Tu vas prendre l'exemple entre toi qui, bon, si tu veux manger le soir, tu cueilles tes salades là au champ, tu as tes choux là, tu as tes poireaux là, tu fais ta soupe, tu n'utilises pas de cube. Là, le cube est déjà manufacturé. Et du coup, là tu es bien, mais tu seras différent de celui-là qui a tout acheté sur le marché. Il a acheté de l'oignon, il ne sait pas comment l'agriculteur a cultivé cet oignon. Il a acheté du poireau, il ne sait pas comment l'agriculteur l'a cultivé. Tu vois, tout ce qu'on achète sur le marché est incertain, comme par exemple l'urée. L'urée apporte beaucoup d'eau à la plante, mais comment on a fabriqué cette urée? C'est un engrais chimique. Hein? On prend un peu une salade qu'on a pulvérisée, qu'on a amendée avec l'urée, qu'on a fait grandir avec l'urée, ou le MPK. Tu vas voir qu'il a vite grandi, elle a vite grandi cette salade-là, ou peut-être un poivron, elle a vite grandi, mais quand tu vas mettre dans la marmite, le poivron dans la marmite, tu vas voir que, ou la tomate, tu vas voir que cette tomate a beaucoup d'eau. Tu vois, cette tomate a beaucoup d'eau et d'où vient l'eau? Parce qu'elle a vite grandi, on l'a beaucoup stimulée. C'est cette eau-là, c'est ces produits-là qui se transforment en eau.
Eddy cultive sans engrais chimiques et estime que c'est un droit fondamental pour toutes et tous de manger des aliments sains. Pour lui, les plus précaires ne doivent pas être condamnés à manger des produits de moins bonne qualité.
Bon, là maintenant, c'est à l'État maintenant d'essayer d'éradiquer ce phénomène de la différence de la classe sociale. Parce que quand tu dis tu ne parviens pas à consommer du bio parce que tu n'as pas de l'argent, y en a, pendant que tu souffres pour ne pas consommer, il y en a qui consomment sans même souffrir. Tu vois, parce que là il y a un problème de la différence de la classe sociale. Nous allons encore ça veut déjà un peu faire entrer dans l'histoire de la classe des prolétaires et des bourgeois. Tu vois, là ça veut dire que tu te retrouves dans la classe des prolétaires. Et aujourd'hui on est en train de vouloir un peu mettre tout le monde à l'égalité pour vraiment mettre à l'écart ce problème de la différence de la classe sociale. Oui. Et là, c'est dans un système où chacun ne sera pas marginalisé. Il ne faudrait pas que le pauvre soit marginalisé, puisque sans le pauvre, le riche ne vit pas. Et sans le riche, le pauvre ne peut pas vivre. Donc il faudrait que l'État essaie un peu de voir ce problème pour pouvoir mettre tout le monde au même diapason.
Est-ce que vous vous souvenez du premier épisode de Chantier Social? J'étais allée faire un reportage au CRIDEV dans le cadre d'un arpentage, donc d'une lecture collective de l'ouvrage Terre et Liberté qui a été coordonné par Fatima Wassak, où il y a plus de 11 chercheurs et chercheuses, militants et militantes, qui ont participé à nourrir l'ouvrage. Je vous mets un petit extrait de l'introduction qui a été lue à plusieurs voix, et je vous laisse recontextualiser ces mots dans le reportage que vous êtes en train d'entendre.
Nous vivons à l'aube d'un basculement historique en Occident. L'horizon s'obscurcit d'une possible gestion fasciste de l'urgence climatique. Plus gestion de partager l'eau, l'air, la terre, la possibilité de vivre bien et de vivre tout court avec celle décrétée indigne d'appartenir à l'humanité. La domination des unes et des uns sur les autres n'est plus supportable. Cette exigence est le fruit d'une prise de conscience collective, celle de militants, militantes, d'intellectuels, de syndicalistes, de paysans, paysannes, d'avocats, d'avocates, d'artistes, d'éditeuristes et d'éditeurs, de journalistes engagés qui partagent l'ambition de construire un front commun contre ce qui ravage le monde. En France, ce souffle radical pointe son nez aux portes de l'écologie politique. Le terrain est favorable. Depuis une dizaine d'années, se tisse un début d'alliance entre lutte écologiste et antiraciste.
Depuis, nous sommes nombreuses à avoir découvert la mission de notre génération. Travailler à un projet écologiste où l'égal dignité humaine est à la fois le centre et l'horizon.
Remplir notre mission, c'est, malgré les critiques que nous pouvons lui adresser, ne pas rompre avec le champ de l'écologie. Le rapport critique à l'écologie ne doit pas viser à nous en débarrasser, mais au contraire, à nous l'approprier.
Terre et liberté est le premier point de ralliement que nous proposons entre écologie et antiracisme.
Une conviction nous anime. Si nous y travaillons sérieusement, l'antiracisme peut devenir le nouveau souffle de l'écologie politique et l'enrichir de joie militante, de savoir académique, d'espérance et d'une histoire pleine de détermination à vivre libre.
L'écologie de la libération, c'est notre réponse à l'urgence que constituent les conséquences du dérèglement climatique et la montée en puissance des fascismes alliés au néolibéralisme en France et en Europe.
Tout notre travail ici consiste à donner de la voix et du coffre à cette écologie de la libération.
C'est dans cette écologie de la libération qu'Eddie et ses camarades cultivent la terre. L'ouvrage « Terre et liberté » nous invite précisément à penser une écologie antiraciste. Comme l'écrit Fatima Wassak dans son ouvrage, « Ce qui ravage la terre ravage les populations non blanches. Ce qui ravage les populations non blanches ravage la terre.
» À chaque fois que je viens ici, j'ai toujours un sentiment de gaieté, de joie. Puisque ça m'a, dans ce jardin m'a d'abord permis de me familiariser avec des gens, des bénévoles qui viennent ici de temps en temps, puisqu'il y a certains bénévoles, ils voient sur les réseaux sociaux, voilà les gens qui cherchent des bénévoles, ils viennent nous donner un coup de main. Ça m'a permis de voir qu'il y en a certains qui ne veulent pas aussi des étrangers. J'ai un souvenir de tristesse et de désarroi, bon, puisque le voisin de l'autre côté, si ça ne dépendait que de lui, les Noirs ne devaient pas exister, puisque ce n'est pas ici la première parcelle. La première parcelle et de l'autre était là-bas en bas, liée à sa femme. Il est venu du coup me dire que bon, il dit, comme vous voyez là, je suis très fier que vous cultivez, mais je suis désolé du fait que je ne peux pas partager de voisinage avec des hommes à la peau de couleur noire. Et du coup de ce côté, ça m'a laissé un petit désespoir et pour ne pas dire mauvais souvenir de sa part, de ce voisin qui est xénophobe. Je le tasse directement de xénophobe, puisque ses actes sont inhumains, quoi. Vous savez, étant dans une situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est très difficile, ces genres de comportements-là qui poussent même des gens à la dépression, hein, puisque lorsque tu te sens déjà marginalisé dans une société, ça veut dire tout ce qui peut te rester, c'est ces actes comme la suscite, quoi. Parce que si aujourd'hui, si peut-être la maman de celle qui nous a cédé la place, elle suivait ses pas, c'est que vraiment tout ce qui nous restait, c'était nos yeux. On ne devait avoir que nos yeux pour pleurer, puisqu'on n'a pas de force, on n'est protégé sur aucun plan. Tu vois un peu, même autrefois, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai même essayé de vouloir négocier avec lui. J'ai vu que mais rien ne me protège, parce qu'en allant vers lui pour lui demander pardon, voilà, s'il te plaît, il peut même créer certains motifs que peut-être je suis venu l'agresser. Et tu vois ici, lorsqu'on dit quelque chose, si je n'ai pas un témoin directement, je serai convoyable à merci chez les policiers. Et tu vois, voilà comment le début de négatif de l'homme commence. Bon, tu vois, et vraiment ça m'a tout le monde n'est pas du même avis que lui. Quand même, il y a encore les gens bien. Il y a encore les gens bien ici. Comme vous, ce n'est pas moi qui vous a invité ici. C'est parce que vous avez vu. Voilà, tu as envie de venir rencontrer. Donc, ça veut dire que tu es partisan de la paix. Tu es partisan de l'évolution. Tu es partisan de la construction de la classe sociale. Tu es partisan de la construction. De positif de la société.
Pour Eddy, l'avenir de l'agriculture, c'est la jeune génération.
Tu vois, si l'agriculteur meurt, il n'y a pas de vie. Hein. Et j'ai constaté même qu'ici, en France, beaucoup d'agriculteurs partent déjà en retraite. Et c'est un fléau qu'il faut beaucoup combattre. Il faut beaucoup combattre. Il faut une grande sensibilisation de la part de l'État. Pour ça, il faut chercher à résoudre ce problème. Oui.
Comment on le résout selon toi?
Bon, on la résout en sensibilisant les jeunes. Comme maintenant dans notre groupe, nous avons créé un lien avec le coupé décalé qui est situé au niveau de la Donnelière. On a contacté le responsable puisqu'il y a des jeunes isolés. On a contacté le responsable. Parfois on peut venir les chercher, ils viennent au champ pour qu'on leur montre comment ça se passe. Ils passent un peu leur quotidien là que de passer en ville en train de monter, descendre et s'exposer un peu aux dangers que nous vivons au quotidien tous les jours.
Eddy et ses camarades souhaitent cultiver dans d'autres villes autour de Rennes et voudraient nationaliser leur initiative.
Et puisque cela ne doit pas se limiter au niveau de nous aussi, puisque même à Fougères, j'ai juste en train de vouloir installer une antenne comme ça à Fougères, puisque j'ai vu qu'il y a beaucoup d'immigrants à Fougères, la démarche est déjà en train de se faire. Même à Donlou, j'ai déjà une autre parcelle à Donlou. Donc, on est en train de vouloir faire que ça soit national. Il faut que chacun se rende utile. Y a parfois des gens qui disent que qu'est-ce que l'État m'a fait? Qu'est-ce que toi-même tu as fait à l'État? Il faut se rendre utile. On doit se rendre utile pour ne pas avoir la dette morale. Quand tu es nuisible, tu as une dette morale parce que tu as toujours peur que voilà, est-ce que. Il y a souvent des cadeaux empoisonnés. Si on te donne un cadeau que tu n'as pas souffert pour l'avoir, tu prends un cadeau dont tu n'es pas fier de le prendre. C'est un cadeau empoisonné. Tu peux être chez moi tous les jours, je te nourris. Mais toi-même, demain, il y a parfois, tu vas prendre la nourriture que je te donne là. Tu manges, mais avec la face froissée, croyant que j'ai une autre idée derrière la tête parce que toi, tu ne travailles pas. Tu n'as pas contribué à cela. Tu vois un peu? Donc, on doit vivre un peu. C'est l'union qui fait la force. Oui, c'est un peu ça. Alors, on est en train de vouloir installer ce projet un peu sur tous les étendues.
C'était Chantier Social sur Quartier des Ondes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Are you the one who's on the radio station?
Quartier des Ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro?